VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique ici aux États-Unis. Le président élu Donald Trump a déclaré que ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche seront fondés sur un principe très simple. L'Amérique d'abord. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Donald Trump a publié sur YouTube une vidéo disant qu'il a instruit son équipe de transition de lui soumettre une liste de décrets qu'il peut prendre dès le premier jour de son administration. Des mesures qui vont, selon lui, restaurer nos lois et rapatrier nos emplois, que ce soit pour produire de l'acier, construire des voitures et guérir des maladies. M. Trump a poursuivi, je veux la prochaine génération de production et d'innovation ici même, créant de la richesse et des emplois pour les travailleurs américains. Dès le premier jour, a encore promis M. Trump, il notifiera son intention de se retirer du TPP, l'accord commercial de partenariat transpacifique, et de renégocier ce qu'il a appelé des accords bilatéraux justes. Par ailleurs, pour toute nouvelle réglementation fédérale, il faudra en éliminer une ancienne. M. Trump va aussi demander au Pentagone de mettre au point un plan global pour protéger les infrastructures américaines contre les cyberattaques. Donald Trump n'a rien dit sur le mur qu'il avait promis de construire à la frontière avec le Mexique, mais il va demander au département du travail d'enquêter sur tous les abus de programmes de visa qui sont préjudiciables aux travailleurs américains.
RDC, les États-Unis ont appelé aujourd'hui l'opposition congolaise à s'abstenir de propos incendiaires dans un pays miné par une crise politique liée au report de l'élection présidentielle. Nous exhortons la coalition du Rassemblement sous la direction d'Étienne Tshisekedi à faire des propositions constructives et pratiques et à s'abstenir de rhétorique incendiaire ou d'actions incompatibles avec les normes démocratiques, note un communiqué de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. La RDC fait face à une crise politique liée au report de la présidentielle à une date non fixée, à la suite d'un accord conclu en octobre entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition à l'issue d'un dialogue national. En RCA, des affrontements ont opposé deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka lundi dans la ville de Bria, à 400 km au nord-est de la capitale Bangui. Ce qui a amené les casques bleus présents sur place à riposter selon la force de l'ONU. Le communiqué de la MINUSCA indique que les affrontements ont opposé des éléments armés du FPRC, faction dirigée par Noureddine Adam, et de l'UPC, faction dirigée par Aline Daras. L'ONU souligne que les deux groupes seront tenus pour responsables des violences, en particulier liées sur les populations civiles. Au Tchad, l'appel à une journée ville morte aujourd'hui lancé par le FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Coalition de partis d'opposition opposée au régime du président tchadien Idriss Déby Itno a eu peu d'impact à N'Djamena, où les fonctionnaires sont en grève pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Confronté à un effondrement de ses recettes du fait de la baisse des cours du pétrole, le gouvernement tchadien a quand même annoncé hier, à la veille du mouvement, le déblocage d'un mois de salaire pour les agents publics qui se pressaient aujourd'hui devant les banques qui étaient ouvertes, comme les entreprises privées. La circulation des taxis était normale à la mi-journée, mais du fait de la grève des fonctionnaires, les établissements scolaires sont fermés et les hôpitaux assurent un service minimum. Burkina Faso, après les médias publics et les enseignants, c'est au tour des agents de la santé de se mettre en grève aujourd'hui pour 72 heures. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale exige la mise en application de leur plateforme revendicative. Les explications de Pissam Ouedraogo, secrétaire général du syndicat.
Nous avons choisi à notre corps défendant un mot d'ordre de grève totale dans l'optique que le gouvernement puisse effectivement se pencher assez rapidement sur nos revendications. Nous savons que même lorsque nous travaillons, il y a beaucoup de désagréments. On sait bien que notre activité est socialement utile. Mais apparemment, nous, on pense que le gouvernement n'y croit pas. C'est pourquoi il n'a pas écouté à la première grève. Et les travailleurs, avec le syndicat, nous avons donc choisi cette forme-là pour effectivement nous faire entendre. D'abord, notre plateforme n'est pas satisfaite. Et deuxièmement, nous, on pense qu'elle n'est pas satisfaite parce que le gouvernement nous méprise. Il n'y a pas de sérieux lorsqu'il discute avec nous. Nous avons déposé la plateforme revendicative le 18 avril 2016. La première rencontre a eu lieu le 26 avril. Depuis, plus rien. Jusqu'à ce qu'on dépose la plateforme le 12 octobre 2016. pour avoir une rencontre le 18 octobre. Vous voyez, le gouvernement s'en fout de nous. C'est pourquoi les travailleurs ont estimé qu'il était de leur devoir de ne pas permettre qu'on abandonne le système de santé et les travailleurs de la santé de cette façon.
Pissam Ouedraogo, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, un juge de la Cour suprême inculpé depuis lundi de blanchiment d'argent. C'est dans le cadre d'une vague d'arrestations controversées au sein du pouvoir judiciaire. Nani Talani.
Le magistrat Sylvester Ngouta, âgé de 65 ans, a comparu devant une haute cour fédérale à Abuja, où il est accusé d'avoir blanchi plus de 1,6 million d'euros entre janvier et octobre 2016. D'après le parquet, lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs avaient saisi trois voitures de luxe, plusieurs passeports, dont des passeports diplomatiques, et de l'argent liquide, plus de 80 000 euros. Le procureur Charles Adeogun Phillips l'accuse d'avoir fait disparaître d'autres preuves. M. Ngouta a plaidé non coupable. La haute cour lui a accordé une remise en liberté sous caution après versement de quelque 300 000 euros. Le procès a été ajourné au 7 décembre. Le juge Ngouta avait été arrêté en octobre par la police secrète nigériane avec six autres magistrats. Le président Muhammadu Buhari, élu en 2015, a fait de la lutte contre la corruption son principal cheval de bataille.
Au Sénégal, des amis de longue date de Lamine Diack, ex-patron de l'athlétisme mondial inculpé de corruption, ont versé la caution de 500 000 euros que lui réclame la justice française. Les détails avec Chérubin Dorsil.
Lamine Diack est poursuivi depuis novembre 2015 pour corruption passive et blanchiment aggravé. Il est sous contrôle judiciaire en France. Son passeport étant confisqué, il ne peut quitter ce pays. D'après un communiqué diffusé par sa famille, des amis de longue date ont versé la caution réclamée par le parquet français, soit 500 000 euros. Le texte n'identifie aucun de ses amis de longue date. Cette caution devrait lui permettre d'éviter tout risque de détention provisoire. Un de ses fils, Papa Massata Diack, qui fut consultant à la Fédération mondiale d'athlétisme, est poursuivi dans la même affaire. Il est soupçonné d'être l'un des acteurs du système de corruption mis en place pour couvrir les cas de dopage. Il a été placé par Interpol sur la liste des personnes les plus recherchées à la suite d'un mandat d'arrêt émis par la France. Papa Massata Diack réside au Sénégal. En janvier, Dakar a exclu son extradition vers la France.
Conflit en Syrie, les troupes du régime du président Bachar al-Assad progressent rapidement dans les quartiers rebelles d'Alep, la grande métropole du Nord. Selon l'ONU, ce sont près d'un million de personnes au total qui sont soumises depuis 4 mois à la tactique cruelle du siège. Les détails avec Claire Morin-Gibault.
Les quartiers rebelles d'Alep ont de nouveau connu des bombardements incessants hier lundi. Matthew Rycroft, l'ambassadeur britannique à l'ONU, les a qualifiés de barbares. Son homologue français a lui dénoncé une stratégie de guerre totale pour reprendre Alep à tout prix. L'ambassadrice américaine Samantha Power a cité devant le Conseil de sécurité les noms d'une douzaine de généraux et colonels syriens accusés d'avoir ordonné d'attaquer des cibles civiles ou de torturer des opposants et qui, selon elle, devront un jour rendre des comptes. Le nombre de personnes assiégées par les belligérants en Syrie est passé de près de 400 000 il y a un an à plus de 970 000, a indiqué devant le Conseil de sécurité Stephen O'Brien, le patron des opérations humanitaires de l'ONU. Les habitants sont isolés, affamés, bombardés et privés d'aide médicale ou d'assistance humanitaire afin de les forcer à se soumettre ou à fuir, a-t-il souligné. C'est une tactique délibérée, une forme cruelle de punition collective.
En Égypte, la Cour de cassation a annulé aujourd'hui une condamnation à perpétuité prononcée contre l'ancien président islamiste Mohamed Morsi après sa destitution en 2013 par l'armée. C'est ce qu'annonce un responsable judiciaire et l'avocat de M. Morsi. L'ex-président Morsi avait été condamné en juin 2015 dans un procès pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de l'Iran. Et pour terminer, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré aujourd'hui ne pas souhaiter que de nouveaux pays africains quittent la Cour pénale internationale. Et ce, à l'issue d'un entretien avec son homologue français François Hollande à Paris. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.